Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
On va ouvrir donc notre Bible et j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui sera aussi... Disons une pensée pratique, parce qu'il faut que ça soit pratique quand même. Hein. Et ça, c'est bien de pouvoir, nous fixer sur ce que nous dit la parole de Dieu et de vivre surtout eh bien, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous recommande. Je ne vais pas trop m'étendre sur ma situation, mais je voudrais dire que quand même, ce que je voudrais partager avec vous, c'est une exhortation, hein, c'est pas autre chose. C'est parce que, bon, voilà, quand on est dans le ministère, et même chrétien, on est à même, eh bien, de connaître des moments difficiles, pas toujours l'évangile à l'eau de rose, hein, et surtout lorsqu'on rend témoignage, lorsque l'on prêche la parole, etc., etc. Alors, le thème que j'ai eu à cœur de vous parler, c'est vieux, hein, je crois que j'ai donné ces messages à Saumur, Angers, Cholet, mais il y a une vingtaine d'années, il y a plus que 20 ans, puisque ça fait déjà 19 ans qu'on est là, au milieu de vous. Hein. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, j'ai eu cette pensée pour nous exhorter, pour nous encourager. Donc, dans Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. Voilà, on va regarder ça. Voilà un futur prédicateur. Ah, vous savez, moi de loin comme ça. Allez. Donc, je vous ai dit verset 18. Hein. S'il est possible, s'il est bien possible. Vous pouvez rester là, hein, madame. Hein? Voilà. Alors, s'il est possible, vous avez remarqué qu'il y a là une question. Hein? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, comment pourrait-on aborder le sujet? Sinon que notre réflexion ce matin, c'est un rappel de principes. Et les principes, ils sont dans la parole de Dieu, ils sont justes, ils sont vrais. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, on ne les remet pas en cause. D'ailleurs, autrement, on ne serait pas là ce matin parce qu'on ne serait pas engagé à vivre avec Jésus. Et puis surtout, vivre avec Jésus, c'est quand même obéir à sa parole, nous respecter sa parole. Et nous pouvons dire que autant que cela dépende. Et vous savez, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il y a tellement d'événements dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie conjugale, amicale aussi, et puis dans tous nos projets que nous pouvons avoir, il y a des choses que l'on projette. Il y a des choses que l'on établit, et puis il y a des choses qui se réalisent, et puis il y en a d'autres qui ne se réalisent pas. Et non seulement elles ne se réalisent pas, mais il y a toutes sortes d'empêchements pour qu'elles ne se réalisent pas. Et ça, c'est des contrariétés, c'est des vexations, naturellement. Ça, c'est des choses que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre. Je voudrais simplement rapporter une petite anecdote que nous avons vécue il y a 25-30 ans maintenant, Myriam s'en souvient. Où j'ai eu affaire à un pasteur, oui, un collègue, tout simplement, qui voulait me parler, il voulait s'entretenir avec moi sur des décisions qui étaient quand même des décisions d'orientation pour, je dirais au pluriel, parce que bon, je ne vais pas dire au singulier, c'est trop simple, mais qui étaient quand même des décisions importantes. Et puis, chacun des deux, autant lui que moi, nous n'avions pas la même vision. Ça peut arriver, c'est pas un crime. Hein, En politique, ce n'est que ça. On n'entend pas trop parler de politique en ce moment, mais ce n'est que ça. C'est vrai. Et je crois que dans ce genre de, non pas de conflit, mais de divergence, de, non pas de parti pris, mais véritablement d'avoir, en fonction de ce que Dieu a mis dans notre cœur, eh bien là, une façon de penser qui est différente des autres, qui est différente de l'autre. Et avec de bonnes raisons de dire, ben moi je pense ça parce que c'est bien. L'autre dira, je pense ça parce que c'est bien. Mais, et ce monsieur, eh bien, on était resté pendant près de 2 heures, je crois. Hein. C'était quand même assez long. Et donc, pendant 2 heures, en train de discuter. Et puis, ben, on voyait que ça n'aboutissait pas. Parce que, bon, c'était l'un qui voulait convaincre l'autre. Hein. Et avec des arguments, avec tout ça, en disant, ben voilà, etc. Et peut-être, quelquefois, débordant sur un sujet de condamnation et de, comment pourrait-on dire, de désaccord... Et d'humiliation. C'est pas bien, ça. Parce que bon, on a le droit quand même de penser ce que l'on veut. Hein. Surtout que, bon, voilà, ça ne s'agissait pas de nos affaires personnelles, mais il s'agissait de l'Église, hein, alors qu'on était tous les deux dans le ministère. Voilà. Et puis, bon, moi, personnellement, j'étais pas du tout convaincu. Mais pas du tout. Les années m'ont donné raison. Je tiens à vous le dire, c'est pas pour avoir raison, parce que ça aurait pu être le contraire. Hein. Mais elles m'ont donné raison, parce que bon, que reste-t-il hein, de... Comment, il y a quelqu'un qui a chanté « Que reste-t-il de nos amours hein. ?» Oh, enfin bon, toujours est-il que le temps a passé, 25, 30 ans, etc., etc. Et à un moment donné, Myriam, qui n'était pas loin, mais on était dans une autre pièce... À un moment donné, Myriam, alors que c'était quand même, elle sentait bien qu'il y avait quand même de la tension dans l'air, sans entendre vraiment hein, ce que l'on disait, a eu une parole de révélation. Ça fait partie des dons spirituels, bien sûr. Hein, parole de révélation, parole de connaissance, si vous voulez, hein, d'un fait qui a lieu dans l'instant, qui a lieu tout à fait prochainement, mais enfin bon, voilà. Et cette parole de révélation était celle-ci. Et j'aimerais quand même que vous la... Parce que nous, on était vraiment... on était restés pantois hein, devant ça. Comment le Seigneur pouvait-il savoir les choses? Ça, c'est pas trop difficile. Et comment pouvait-il finalement nous donner le véritable comportement dans une question, dans une affaire qui allait passer à la crise? Vraiment. Parce que bon, un pasteur, il n'est pas tout seul. Il y a aussi, quelquefois, 10, 20, 30 personnes. Nous, on en avait 400 derrière nous. C'est quand même pas une petite affaire. Hein. Parce que les orientations, quand elles sont prises. Hein, on ne vient pas en arrière. Bon. Et c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10. Alors, ce n'est pas moi qui ai reçu cette révélation, mais c'est ma femme. Et elle me l'a dit après. Après que ce fameux personnage soit sorti brutalement de la pièce où il était en claquant la porte. C'était un pasteur qui avait la maîtrise de lui-même. Hein? Enfin, bon, il n'était pas content, hein? Et puis c'est tout. Hein? Alors, cette parole était la suivante. C'était celle-ci, Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. » Car le calme prévient de grands péchés. Et ça, je pourrais vous dire qu'on s'en souviendra toute notre vie. Parce que c'était quand même un rendez-vous avec un enjeu important. Je le relis. Si l'esprit, c'est pas la personne, c'est pas la personne avec son corps, avec finalement ce que l'on connaît de cette personne, hein, physiquement, dans sa, finalement, dans son port, dans la manière dont elle est. Mais si l'esprit... Parce qu'il y a un esprit derrière qui anime avec de bons sentiments ou avec de mauvais sentiments. Si l'esprit de celui qui s'élève contre toi ne quitte pas ta place, ne bouge pas, parce que ce n'est pas toi qui vas régler le problème. C'est le Seigneur lui-même qui va dominer l'esprit qui anime cette personne à bien ou à mal parler. Là, il est question de mal parler. ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Combien de bateaux ont fait naufrage au milieu de l'océan parce qu'il y a eu de la panique. Parce qu'il y a eu véritablement de l'agitation. Et quelle agitation? C'est pas seulement l'agitation des flots et des vagues, mais c'est les agitations qu'il y a à l'intérieur. Notre vie intérieure peut être un océan. Hein. Ah oui, ça peut arriver. Hein. Le calme prévient de grands péchés. Alors, il y a le comment répondre. Comment les choses? Comment les circonstances? Il y a le pourquoi des circonstances. Parce que, voilà, c'est ainsi. Il y a les parties qui sont là confrontées, parties amies ou en collaboration, ou alors parties adverses. Ça, c'est aussi une autre question. Et ça nous amène, et ça c'est important, c'est pour ça que je voudrais vous en parler d'une manière positive ce matin, comment savoir vivre les bonnes relations. Parce que finalement, c'est pas la mer à boire, tout ça, hein, si on peut dire. C'est pas la fin du monde, parce que ce sont des affaires humaines. Même si elles touchent l'œuvre de Dieu, même si elles sont importantes sur le plan spirituel. Non. Comment vivre en bonne relation? J'aimerais mettre devant vous, et ça va nous servir, 5 éléments que nous allons énumérer rapidement. 5 éléments et qui nous évitera de rentrer en désaccord ou en conflit. Il y aura des conflits. Il y en a toujours. Il y aura toujours des désaccords. Il y aura toujours des options. Il y aura toujours des gens qui ont une autre, peut-être, vision, qui ont d'autres manières d'envisager. Alors, pour le passé, on n'en parle plus parce qu'il n'est pas à faire. Mais le présent, comment on fait pour traiter les problèmes au présent? Comment on fait pour traiter les problèmes à venir que l'on ignore, hein, parce qu'ils vont nous tomber sur la tête à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas. Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui les produisons. Ah oui, ça peut arriver. Entrer en conflit et en désaccord. Si l'esprit de celui qui domine, qui te domine, eh bien, si celui-ci, alors à ce moment-là, tu ne bouges pas. Parce que plus tu vas te... Plus tu vas te bouger, tu vas remuer, tu vas véritablement te mettre à mal, c'est comme lorsque un animal, alors qu'il a une corde ou une laisse ou un truc comme ça, plus il tire. Hein. On le voit quelquefois, hein, des dames ou des messieurs qui promènent leur chien, et puis le chien il est tellement tout fou parce qu'il n'a pas sorti depuis 3 mois. Il sort, hein, il tire de tous les côtés, tout ça, et puis alors après vous avez, il a une langue comme ça. Hein. Ben oui, mais c'est ça, on s'épuise, on se rend malade, et quelquefois pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il est question de cet esprit qui s'élève, moi j'appellerais ça un esprit fâcheux. Le contraire de l'esprit fâcheux, ça serait l'esprit conciliant. Sans vouloir finalement vendre bon marché, faire de la promotion mettre, vous savez comment on fait les promotions là, dans les supermarchés, hein, parce qu'on veut se débarrasser ou je ne sais pas quoi, on veut promouvoir en tous les cas. L'esprit fâcheux. Je parlerai de personnalité opposée, mais c'est normal. Vous savez, on n'est pas dans un monde parce que depuis le livre de la Genèse, ça va mal partout, hein. Aujourd'hui, ça va mal partout. Quand on voit les crises sociales, les crises qui agitent le monde, les crises politiques, les crises d'État, les crises financières et les crises de la santé, enfin disons, mais il y a des crises partout. Et moi, je m'étonne quelquefois que l'homme arrive à s'en sortir dans tout ça. Hein. Bon, quelquefois, il utilise un peu le canon pour... il s'est trompé avec la seringue, mais enfin bon, toujours est-il que... Mais c'est ça, on est dans un monde... Et quelle violence monte de tout cela. Plus les gens sont mécontents, plus ils sont chauffés, et plus finalement ils bougent, hein, plus ils sont acerbes. Moi, je suis choqué de voir que dans les manifestations, j'ai rien contre, mais j'y vais pas. Mais toujours est-il, puis ce serait pour ma place d'abord. Hein. Mais une chose qui est certaine, de voir des panneaux avec des effigies, avec des insultes, avec des grossièretés, avec des toutes sortes de choses, où là, eh bien, on est en train de vouloir refaire le coup de Louis XVI. On parle de meurtre, on parle de guerre, on parle de couper la tête, on parle d'incendier. Notre voisin, nous, à côté de Saint-Nazaire, le maire de Saint-Brévin, on n'a jamais parlé autant de lui. Hein. On a brûlé sa maison, on a brûlé ses voitures. Et maintenant, il a dit, maintenant, allez, hop, il y a quelqu'un qui me remplace. Et c'est terrible une chose pareille. Et c'est le monde dans lequel on est. Et ça monte en mayonnaise. Moi, je ne sais pas faire une mayonnaise. Enfin, j'utilise l'expression. Mais ça monte en mayonnaise parce que les journalistes, pour, contre, et ceci et cela, et ça fait de la mousse. Hein.
Ça amplifie les choses.
Ça amplifie les choses, c'est terrible. Et on est quand même dans cette société dans laquelle on est. Et qu'est-ce que nous dit le texte, si on veut le généraliser au monde ? Au monde, eh bien, il nous est dit ceci tout simplement dans Romains, quand il nous est rappelé, alors que je retrouve, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais comment être en paix avec tous les hommes ? Dans un monde comme le nôtre, entre les Chinois, les Russes, les Ukrainiens, les Français, et puis ceci et cela, ceux qui sont franchement pour, ceux qui sont franchement contre, ceux qui disent « Ah ben moi, je me mêle pas de tout ça, mais... » Et voilà, alors ça fait une sacrée marmite. Ouais, ça boue dans la marmite, hein, ça c'est certain. Et que dire même dans l'Église ? Parce qu'il y a différentes tendances. Mais comme lorsque nous voyons la multiplicité de religions dans notre monde, que ce soit les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les juifs, les bouddhistes, les hindouistes, et puis toutes les religions parallèles qui sont là en train de brasser de tous les côtés, mais on n'est pas dans un monde uni. Hein. Et aujourd'hui, bon, on essaie de calmer un peu le jeu pour que les guerres de religion ne reviennent pas. Mais elles reviennent. Hein. Vous savez qu'on a eu l'occasion, nous, cette semaine, de rencontrer M. Pelletier, que vous connaissez, qui est responsable de toutes les missions des assemblées de Dieu dans le monde. Il nous a raconté des histoires épouvantables. Hein. L'Église persécutée. À qui ne tuera pas son Pakistanais, ou enfin les uns et les autres. Hein. Mais c'est terrible. Hein. Il nous a raconté pendant au moins une demi-heure. Il m'a dit, mais c'est terrible, vous le connaissez, M. Pelletier.
Oui. Hein.
Alors, quand on voit ça... Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et on le trouve même dans les églises évangéliques. On est appelé, parce qu'on n'a pas choisi le mot évangélique, on n'a pas choisi finalement tout cela, tous ces... Non, on a choisi Jésus. Et c'est là où il faut bien faire attention, c'est que si on choisit Jésus, c'est Jésus que l'on doit suivre, et non pas une communauté aussi bonne soit-elle. Mais il y aura toujours des conflits. D'ailleurs, je prends pour preuve, quand Jésus a choisi les 12, je peux vous dire que quand il n'a pas trop regardé à qui était Judas, mais il l'a fait exprès. Ah, c'était pas une erreur. L'accomplissement du salut de Dieu à travers la trahison de Judas. Alors on s'étonne, on se dit, et on s'est dit, mais ça devrait être linéaire tout ça. Dans l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit son appellation, on devrait être tous dans une atmosphère de bisounours. Vous connaissez ? Et voilà, hein, les bisounours, tout doit être bien, tout doit être formidable et tout ça. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a l'esprit de celui qui domine. Et c'est pas le pape, c'est pas le pasteur, c'est pas un influent dans l'église de Redon ou de Saint-Nazaire, c'est pas ça. Moi, je pense que nous sommes remis en face de celui qui doit nous conduire et nous diriger et qui doit nous donner les sentiments, comme cela est écrit dans le Philippiens chapitre 2, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et là, c'est du travail. Je peux vous le dire. C'est pas évident. Alors, esprit fâcheux, personnalité opposée. Les causes, c'est la pression et la domination. On le voit en politique. Mais un tantinet peut-être aussi chez nous, hein. De savoir répondre ou se taire. Ah oui, c'est pas toujours évident, parce que quand on vous monte et on vous écrase un orteil, ben, vous savez ce qu'on a envie de faire ? Eh ben, on a envie d'écraser l'orteil de celui qui nous a écrasé le nôtre. Hein ? Comme ça, il va comprendre. Ça dépend avec quoi on l'écrase. Il nous est recommandé le calme. Et il y a une richesse de l'apaisement. Pour construire la volonté, c'est construire et non pas détruire. Ça sert à quoi de détruire ? Ça ne sert qu'à faire du mal. Ça ne sert que à neutraliser l'œuvre de Dieu qui a déjà été faite avant, et avec beaucoup de souffrance pour ceux qui étaient avant. Voilà, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pas du tout. Alors maintenant, la question, c'est comment construire ? Je voudrais vous donner aussi quelques mots de notre témoignage avec mon épouse, parce que ça fait quelques semaines qu'on est pasteur, on est tout jeune. Hein. Non, voilà. On n'a pas appris grand-chose, mais enfin, ce qu'on a appris, on l'a appris. Voilà. Vous savez que quand on a des responsabilités, on n'est pas compris par tout le monde, c'est normal. Ah oui, parce que dans l'Église, eh bien, c'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des tout nouveaux, on les appelle les bébés dans la foi. Ils n'aiment peut-être pas ça, mais ils acceptent parce qu'ils savent que de toute façon, ça fait partie, hein, les commençants, les débutants et tout ça. Et puis, il y a les enfants qui sont turbulents. Et puis, il y a les adolescents qui touchent à tout. Je parle des chrétiens, hein. Et puis il y a des gens qui vont rentrer dans la vie, l'homme fait, etc. Et puis on a aussi une autre génération, c'est nos anciens. Ils ont les cheveux blancs aujourd'hui, mais ils ont vécu et ils peuvent nous dire des choses. Ils ont une histoire personnelle, ils ont l'histoire de l'Église aussi, et ils ont l'histoire finalement, eh bien, de la vie mélangée avec une vie avec Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. Et aujourd'hui, on respecte pas trop les différences générationnelles, hein. Faut bien le dire, on le voit dans la société de toute façon. Mais vous savez, il faut passer par là. Il y a des choses qui ne nous font pas plaisir, mais il y a des choses qui sont nécessaires. On dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu as permis ? Pourquoi tu as ouvert cette porte ? Et puis maintenant, on est bien embêté parce que ça fait mal. Hein. Moi, je ne pensais pas que le ministère... Eh bien, moi, je pensais que c'était tout rose, tout le monde allait nous apporter des fleurs, eh bien, le dimanche matin avant la prédication, etc. Non, mais ça vous fait rire, mais surtout, venez pas avec des cactus, parce que je ne supporte pas. Bon. Il y a un jour, oh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant une de mes dernières opérations. C'est pour vous dire que si l'esprit domine, parce qu'il y a des esprits qui dominent certaines personnes... Hein? Consciente ou pas consciente, mais c'est une personne que j'avais pas eu de nouvelles, qui avait fait le bazar chez nous, et ça faisait au moins 15 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles, souvent avinée, vous comprenez ce que je veux dire, avinée, pas affinée, non, c'est pas comme le fromage là, avinée, c'est le vin, alcoolique.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, oui, attention, hein. Aviné, oui, quand c'est marqué sur l'ordonnance, il ne faut pas abuser la dose. Hein.
Ah oui,
alors, c'était curieux parce que là, il y a quand même un esprit qui travaille pour diviser l'Église, pour mettre les uns contre les autres. Ça, c'est sûr. Et puis, on était à table avec Myriam, c'était un soir. Hein. C'était juste, combien, 2 jours avant mon opération, hein. La dernière opération. Et je reconnais sa voix. Il me dit, tu me reconnais, Alain ? Oh, bah oui, que je le reconnaissais, parce qu'il m'a fait tellement de bêtises et tout ça. Et, hein, voilà, il était parti à un moment donné, en claquant la porte lui aussi. Et puis, il me demande, il me dit, ça va bien, etc. Alors moi, gentiment, bah oui, bon, c'est vrai que ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu et qu'on ne s'était pas parlé. Je lui dis, oui, ça va, mais je vais avoir une intervention chirurgicale. Mais j'en ai déjà eu plusieurs avant, là, hein. Il me sort à un moment donné, il était à Narbonne, je crois, hein, donc c'était pour Saint-Nazaire. Et puis il me dit, écoute Alain, moi je te dis une chose, hein, je te souhaite que tu souffres le plus possible pendant l'opération.
Oh. C'est pas vrai.
Eh bien c'est vrai, et je suis vivant. Non, non, mais c'est incroyable la méchanceté. Alors moi je pense que c'est pas la méchanceté du bonhomme, mais c'était la méchanceté des esprits qui étaient derrière l'homme. Voilà. Alors quand j'ai vu ça, j'ai pas hop terminé. Hein. Mais ce sont des choses que l'on vit ça. Et quand on est pasteur, on est servi. Hein, je peux vous le dire. Ça c'est clair. Nous avons aussi eu à partager des insultes en public parce que on était tout simplement dans l'œuvre de Dieu. Vous avez peut-être pas connu ça. Pour certains l'ont connu. Hein, en assemblée générale, bon. C'était pas triste, hein, et des gens qui étaient au milieu de nous, qui se recommandaient, et qui quelque part, eh bien, après avoir été insultant, est obligé de faire venir la police. Et à ce moment-là, eh bien, ils sont tous partis parce qu'ils avaient tellement honte. Mais ça ne s'est pas terminé de cette manière, parce que quand ils ont vu que c'était, ça s'est passé comme ça, ils ont déposé plainte à la police. Moi, je me suis retrouvé devant un inspecteur, et l'inspectrice, parce que c'était une, elle me dit, mais voilà, on a porté plainte contre vous, parce que moi, j'étais pas au courant que c'était une plainte. Et donc, on a parlé un petit peu, elle m'a dit, monsieur le pasteur, vous ne tracassez pas, je classe l'affaire. Ah, dites donc, un mois après, je reçois encore une convocation pour une plainte à la gendarmerie, donc la police, une administration, une autre. Je me retrouve pendant près de 2 heures chez le gendarme à ce moment-là. Et de voir, mais je lui dis, mais écoutez, la police a classé l'affaire. Et vous allez la reprendre et tout ça, alors que j'y étais pour rien. J'avais même rien dit, rien fait. Humiliation. Ben, je peux vous dire, on a passé des sacrés moments avec Myriam. Parce qu'on n'aime pas ça, hein, de toute façon. Ça m'est arrivé également, vous allez dire, vous allez pleurer, hein. Mais ça veut dire que quelquefois, rien n'échappe. Hein. Moi, je me suis fait frapper par 2 coups de poing dans le visage. J'avais une dent cassée, là, devant. Alors, maintenant, je vois Martine qui dit « Oh !»
Oui, c'est un truc.
Ah ben non, mais attends, je suis à peu près normal maintenant. Hein. Je ne devais pas être normal à l'époque. Mais toujours est-il, alors tout ça, ça a été complètement... Il y en a certains que vous avez connu ce temps. Hein. Et aujourd'hui, si nous avons pu reprendre cette église, parce que le Seigneur m'avait envoyé d'Angers à Saint-Nazaire et Redon, et vraiment j'avais cette conviction que on était, tous les deux, on était des redresseurs de tort, redresseurs de brèche, pas de tort, de brèche. Et que Dieu nous avait envoyé ici parce qu'il avait jugé qu'on devait pouvoir le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où les choses ont été réglées, les gens sont venus dans l'église, on a pu construire cette belle petite salle, sans crédit et sans dette. En l'espace de 1 an et demi, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis jusqu'au moment où on est parti, c'est-à-dire en 2018. Et c'est pour vous dire, si l'esprit qui est au-dessus, alors que normalement les chrétiens devraient être remplis du Saint-Esprit de Dieu, qui est un esprit de paix et un esprit, finalement, d'amour. Oui, très juste. Alors là, il y a quand même quelque chose, parce que moi, j'en veux pas. J'en veux à personne, oui. J'en veux à personne. Mais je veux dire une chose, c'est que nous sommes tous pressés à devoir nous tenir devant Dieu et de dire « Change-moi, Seigneur ». Ça m'arrive d'avoir des mauvaises pensées contre les gens, même pasteur, mais bien sûr. Non pas parce que, voilà, il y a ceci et cela, mais ça m'arrive. Ça m'arrive de me tromper peut-être plus souvent que les autres, en raison des responsabilités. Mais une chose que nous avons appris avec ma femme, quand on prie, on dit « Seigneur, continue ton œuvre de sanctification. » Alors là, c'est aussi encore une autre opération. Elle n'est pas chirurgicale, mais elle est spirituelle. Et petit à petit, on ne change pas du jour au lendemain, mais petit à petit, à un moment donné, on se dit « Mais j'étais comme ça, mais je ne le suis plus. » Donc il y a quand même une œuvre, hein. Ça c'est certain. Alors voilà, bon, j'ai voulu tout simplement donner quelques mots sur la question. Alors, les bonnes relations aident à la vie et contribuent au développement, à l'harmonie et à l'équilibre d'une église. Ah oui. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, avec ça. Eh oui, parce que c'est le but du pasteur. Moi, j'aurais pu rester dans les affaires. J'étais dans les affaires. J'ai travaillé pendant des années dans une entreprise. J'avais même une responsabilité. Mais je me dis, il y a des choses que quelque part on peut se permettre dans une église qu'on ne se permettrait pas devant un patron. Hein. Ça, c'est clair. Alors, les bonnes relations aident à la vie communautaire. Ils aident à la vie spirituelle, à la vie, alors là, j'ouvre encore un volet, à la vie familiale, parents, enfants et époux, épouse. Vous savez, j'entendais hier dans les informations qu'il y a au moins 50% de gens mariés qui divorcent en cours de... C'est terrible, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Et ça nous vient de Napoléon, parce qu'il voulait divorcer de Joséphine. Vous connaissez Joséphine, hein. Pas Becker, mais... Joséphine. Et comme il voulait se remarier avec Marie-Louise d'Autriche, eh bien, il a dit, on va faire une loi dans le code civil napoléonien. Et il a mis ça, et puis alors après, il a ouvert la brèche. Parce que s'il le faisait, tout le monde l'a fait après, une grande partie. C'est pour vous dire que, vous comprenez, c'est quelque chose d'assez particulier, et ça nous concerne. Moi, j'ai eu à entendre, parce qu'on a eu quand même pas mal de confessions de gens en déliquescence, ou des couples en déliquescence, et j'ai eu pas mal de confessions en disant, voilà, on passe un mauvais moment, on aurait besoin de vos conseils, on aurait besoin d'être avisé un petit peu avec... voilà. Alors, il y en a qui demandent, et puis finalement qui n'en font rien. Puis il y en a d'autres qui suivent les conseils, et puis on s'aperçoit qu'on rattrape des couples comme ça aussi. Hein. Non pas parce que le pasteur l'a dit, mais attention, il faut savoir comment on le dit aussi. Hein. Mais de pouvoir eh bien, aider les gens. Ça, c'est les bonnes relations qui aident à la vie. Les mauvaises relations nous tirent toujours vers le bas, et ont naturellement des conséquences. Mais oui, quand il y a la guéguerre entre des gens qui ont été amis, qui maintenant sont devenus ennemis, des pays, enfin toutes sortes de choses, hein, un chef dans une entreprise qui vous en fait voir de toutes les couleurs, etc., mais il y aura des conséquences de toute manière. Hein. Voilà. Et ça fait comme un boulet, c'est-à-dire que toute votre vie, soit parce que vous avez été trop loin dans les paroles, soit parce que vous avez été trop loin dans telle ou telle situation, ça devient un boulet que vous traînez. Et il y a des gens, quelque part, eh bien, ils portent ce boulet. Ils sont malheureux. Ce sont des chrétiens, mais ils portent un boulet. Et ça, on le sait. Alors, moi, on ne connaît pas la vie de tout le monde, hein, naturellement. Mais on se dit, voilà, eux, ils le savent, hein, de toute façon. C'est un fardeau à porter. Et beaucoup de nos églises, il y a de la tristesse dedans. Et particulièrement la tristesse de ceux qui, quelque part, eh bien, ont raté des occasions. Ou quelque part, eh bien, n'ont pas été en paix ou n'ont pas voulu être en paix avec tous les hommes. On ne sera pas en paix avec tout le monde, ça c'est certain. Il y en a qui veulent et il y a des gens qui ne veulent pas. Ça c'est sûr. Hein. Et c'est un embarras permanent. Les gens qui sont, voilà, ils ont un peu la tête dans les épaules. Ils ont été très heureux au moment de la conversion. Il y a eu comme un souffle, comme quelque chose de formidable. On l'a passé, ça, quand on s'est converti. Et à un moment donné, ça baisse, ça baisse, ça baisse. J'ai eu l'occasion de le reconnaître. Hein. On en a vu des gens passer. On en a baptisé des gens, ça, c'est certain. Hein. Et c'est normal. Hein, on était là pour ça. Et de dire que, quelque part, il y en a qui ont bien commencé. Ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Pas de problème. Ils déclarent le nom de Jésus. Ils se sont repentis de leurs péchés, etc. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié, c'est la suite. La conversion, c'est aussi la régénération, c'est aussi la sanctification. Et là, ça fait mal parce que le Seigneur, il a sorti son sécateur. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Quand la vigne est coupée, pas le cep, mais pas la racine, c'est le cep, hein, voilà. Quand il est taillé, il porte encore beaucoup plus de fruits. Et quand on ne veut pas le tailler, eh bien, il va mourir sur lui-même. C'est ça le problème, parce que la foi, c'est pas simplement une aventure à un moment donné, non, c'est plus que ça. Il y a une différenciation à faire sur trois critères de sagesse et de bon sens. Je dis bien sagesse et bon sens, parce qu'on n'en sort pas, hein, de toute façon. À savoir vivre en paix, et ça reste relatif en fonction des circonstances, des événements, de l'éducation, et puis peut-être les défis que nous avons reçus, ça c'est sûr. Parce qu'il faut un climat de confiance. Le mot « confiance », c'est le même mot que « foi », si vous voulez. Je fais confiance. Avoir confiance dans tout ce qui peut survenir devant les diversités de points de vue qu'il nous faut respecter. Tu penses ceci, mais qu'est-ce que ça me fait de te persécuter ? Qu'est-ce que ça me fait de te persécuter parce que je ne suis pas d'accord avec toi ? Ben, tu vas faire tes expériences toi-même. Moi, je pense que c'est négatif pour toi. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait avec les enfants ? Avec des parents qui sont, excusez-moi, mais sages et qui sont soucieux de voir leurs enfants grandir. Ne touche pas. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Au bout d'un certain temps, le gamin continue à le faire. Bon, ben continue à le faire. Maman, je me suis mis la main sur la cuisinière. Maman, j'ai fait ceci et cela et j'ai mal. Il va comprendre tout ça. Maintenant, il ne faut pas le pousser dans le feu. Il ne faut pas le mettre sur le barbecue. Enfin, excusez-moi. Mais il ne faut pas se tromper. Mais bon, toujours est-il que c'est ça la question. Mais c'est est-ce que vous croyez que le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous traite comme ça? Il y en a qui font des comédies, mais vraiment des comédies devant Dieu en disant « Je veux ceci, je veux cela, Seigneur, tu me le donnes. Les autres l'ont, moi je ne l'ai pas. Et puis je vois celui-ci, regarde, il a du succès, etc. etc. » Seigneur dit « Tu le veux? Eh bien, tu vas manger des cailles. » Vous connaissez l'histoire? Elle est pas mal, les cailles. Hein, alors là, je peux vous dire qu'ils ont été tous... Hein, ils avaient tous fait des crises de foi. Attention, comment vous l'écrivez? Eh oui, mais bien sûr, hein, bien sûr. Tu le veux, tu vas l'avoir. Voilà. Hein, parce que si on sert, et ça c'est une question pratique, nous avec quelquefois notre, comment pourrait-on dire, fondamentalisme protestant et évangélique. Parce qu'il y en a, il y en a. Quelquefois on dit aux enfants, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, etc., etc. Et moi je pense qu'à un moment donné, on irrite les enfants. Et vous savez qu'il est écrit, hein, je ne sais plus si dans Pierre ou un truc, « Père, n'irritez pas vos enfants, parce que si vous les irritez, vous allez voir, quand ils vont devenir adolescents et adultes, ils vont vous en faire voir. » Donc il faut la mesure. Voilà, il faut la mesure. Ça, c'est important. En situation, je ne vais pas être trop long, en situation, comment pourrait-on dire, en situation de relations dysfonctionnelles, c'est-à-dire des relations qui sont un peu désordre. Voilà, hein. Ça dépend comment on a été élevé. Quelquefois on a été élevé sévèrement, et ce n'est pas toujours la bonne méthode. Maintenant on a été quelquefois élevé avec beaucoup de, beaucoup de libéralité, et puis là c'est pareil, on n'apprend rien du tout, parce qu'on ne respecte plus rien à ce moment-là. On est des petits dieux. Alors donc, dans un ou dans l'autre. Il y a un dicton qui nous rappelle ceci. Quand tu es dans un puits, ah, ça peut arriver, il n'y a pas que la Samaritaine. Hein. Non, mais c'est pas une question, c'est mon dicton. Quand tu es dans un puits, quand tu es tombé dans une fosse, un puits, etc., sans espérance d'y trouver de l'eau. Alors on te demande pourquoi tu y vas. Premièrement, ben oui, hein, c'est un puits, il y a de l'eau. Et là, tu descends quand même, et puis finalement, il n'y a pas d'eau. Sans espérance d'y trouver, finalement, eh bien, là, de l'eau. Ne t'évertue pas lorsque tu es au fond du puits à creuser jusqu'à ton total épuisement pour te donner raison. De dire, eh bien, j'ai eu raison de descendre dans le puits. Il n'y a pas d'eau. J'ai pris ma pioche et ma pelle et je continue à creuser. S'il n'y en a pas là, il n'y en aura pas encore en dessous. Hein, jusqu'à épuisement. Et quelquefois, on va jusqu'à l'épuisement dans nos conflits. Et on n'en peut plus. Et on s'épuise et on passe à côté de ce que Dieu voudrait nous dire. Reste dans le calme. Vous savez, il y a une grande vérité, mes frères et sœurs. Une grande vérité, c'est qu'il faut cultiver la tranquillité et la quiétude. Être paisible. Et pas vouloir changer le monde, pas vouloir changer les gens, pas vouloir... Ça viendra. C'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Accepte de lâcher prise de tous tes efforts inutiles, car à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, c'est le problème, quelquefois, des évangélistes qui bousculent les églises. Normalement, un évangéliste, c'est pas fait pour être un... Il n'est pas pasteur. Un pasteur, c'est celui, c'est un berger, lui. Mais les évangélistes, ils y vont, ils soufflent. Hein. Ouf, ils ont dit, non, ça y va, hein. Mais ils pensent qu'ils vont gagner le monde et il faut que même les chrétiens de l'Église, eh bien, ils soient aussi dans le... qu'ils fassent comme lui. Mais non, lui, c'est lui et puis les autres sont les autres, naturellement. Alors, je pense que quelquefois, il faut se remettre devant le Seigneur en disant, « Seigneur, écoute, hein, aide-moi à lâcher prise. » Parce que nous avons tous des caractères particuliers. Hein. Eh oui, hein, il y a des... On est quelquefois inoxydable. On y va et ça, c'est dur, hein, ça c'est certain. Mais bon, d'un autre côté, je crois que le Seigneur veut nous apprendre aussi certaines choses et il faut comprendre que voilà, c'est comme ça, tout simplement. La réponse que nous répondons, que nous venons, va venir d'une façon surprenante. Ça, c'est le cinquième point. Devant les provocations et les défis, nous avons besoin de nous souvenir de ceci. Garde le silence et reste à ta place. Pourquoi se mêler des affaires qui ne regardent pas? C'est Paul qui le dit à un moment donné. Pourquoi? Ça ne te regarde pas. Voilà. Nous, on est confrontés avec toutes sortes de choses à l'intérieur du corps pastoral, et puis aussi au niveau des églises, et puis même dans notre famille. Moi, quelquefois, on se dit avec mon épouse, « T'en mêle pas, ça sert à rien. Hein, t'en mêle pas. » Et quelquefois, il faut être sage aussi. Hein. Les parents qui veulent s'occuper des enfants qui ont la langue, et qui veulent s'occuper des enfants qui ont qui sont plus leurs petits-enfants, ils ont déjà 50 ans, les enfants. Ils sont grands, non? À 50 ans, on est grand, on peut marcher tout seul, non? Ouais. Et ben voilà. Et puis dans l'église, c'est la même chose. Quand on veut faire avancer les gens plus vite qu'ils ne le veuillent, et on leur fait croire qu'ils sont mûrs, qu'ils sont équilibrés, alors que finalement, tout est là pour dire ça va se faire au temps voulu. Tout simplement. Et ce n'est pas à nous de le faire. C'est à la personne d'en prendre conscience. Et là, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. Parce qu'on ne pourra rien faire d'autre. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Alors, ça, c'est aussi une provocation et un défi. Et il faut le savoir. Car la maîtrise préviendra, nous dit le texte, de grands péchés. Et oui, elle préviendra de fautes que nous n'aurions pas commises si nous n'étions pas mêlés de certaines affaires. Je reste en dehors. Comme on dit, parle toujours. Voilà, tu m'intéresses. Ce n'est pas quelque chose que j'en peux très souvent. Mais c'est vrai. Mais en tous les cas, notre devoir, c'est de prier pour ces gens-là.
Exactement.
C'est de prier, c'est tout. Donc, il faut savoir prendre de la distance, nous dit le texte, hein, de toute façon. Surtout avec un opposant qui ne veut pas changer. Et c'est ça la question. Parce que si quelqu'un vient vous voir et vous dit moi, ça m'arrive assez souvent. Je vous dérange pas, là, quand je prêche comme ça. Non, ça vous... Là, vous me le dites, et puis je prends pas tout votre temps, non? Bon, je suis venu pour 24 heures, hein, aujourd'hui. Bon. Ça m'arrive très souvent. Vous savez qu'on a tous le plaisir d'avoir, souvent plusieurs fois par semaine, bien qu'ils ont mis... Il y a des lois qui sont passées, où le gouvernement a mis des lois pour ne pas être dérangé 20 fois par jour au téléphone. Très souvent, bon, moi, on me fera la proposition de changer mon toit, qui, mon toit, n'est pas à moi, mais à la société dans laquelle j'habite et je suis locataire. Alors, je ne vais pas payer pour mon propriétaire, naturellement. Et puis, toutes sortes de choses comme ça, on nous propose, voilà. Puis, faites attention aux arnaques en ce moment, hein, y en a... Et quelquefois, ça m'est arrivé de répondre, ça fait quelquefois bondir Myriam, mais bon, je le fais quand même. Les gens me téléphonent, oui, monsieur Ouvrard. L'autre jour, on m'a appelé Madame Ouvrard. Alors, on m'a appelé Madame Ouvrard. Moi, quand j'ai raccroché, je lui ai dit au revoir, monsieur. Vous comprenez plus rien. Et ça m'est arrivé. Ça vous fait rire, mais j'ai toujours mon petit goût d'humour, hein, de toute façon. Alors, hop, elle a raccroché tout de suite. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que des fois, ça me chauffe. Oh là là, reste à ta place. Et tiens-toi. Oui, alors, moi, l'autre jour, j'ai dit à la... Je voudrais vous poser une question, parce qu'on commençait à me faire de la démarche marketing. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous poser, madame, au demeurant, très gentille, la dame. Hein. Et elle était en train de me faire un petit peu le baratin. Je lui dis, je voudrais vous poser une question. Elle pensait que c'était pour des affaires, naturellement. Je lui dis, écoutez, madame, vous allez me répondre par oui ou par non. Franchement, est-ce que c'est moi qui vous demande quelque chose? Ben, elle est obligée de me répondre non. Ben, je lui dis, ben, écoutez, vous pouvez raccrocher. Tout simplement. Ça les calme. Remarquez, je suis un petit peu malin sur les bords.
C'est leur métier. Hein. C'est leur métier.
Oui, alors, je sais très bien que quelquefois, j'ai renvoyé un peu la... Comment ça s'appelle? Je lui ai dit, écoutez, c'est pas contre vous que j'en ai, hein, mais contre vos indécents, ceux qui font le marketing. Oui, ce sont des gens indécents. Et toujours au moment où on est en train de couper la viande, elle est toute chaude, et on va la manger, elle est froide. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est vrai, vous avez fait l'expérience? Oh oui, mais non, bon, moi je suis chez nous maintenant.
Moi je décroche pas.
Non, mais, pardon, tu peux laisser un message. Moi, je leur pose, vous voulez écouter mon message? Vous connaissez Dieu? Ah, oui. Et puis, je continue. Et après, j'en ai marre.
C'est lui qui raccroche.
Voilà un futur Moïse. Qui va nous faire traverser la mer Rouge.
Ah, mais c'est impressionnant. Quoi.
Ah, mais voilà. Alors bon, moi, je veux pas être trop long, mais c'est bien. Bravo, continue. C'est toi qui les appelles maintenant.
Ah,
Non, il faut savoir prendre nos distances avec ceux, surtout avec ceux qui ne veulent pas, finalement, eh bien, qui ne veulent pas céder, puis qui n'ont rien à faire, hein, de toute manière. Là, je parle pour les chrétiens, ça c'est vrai, hein, qui s'obstinent à fermer les portes d'une possible entente. Il y a des gens qui ne veulent pas s'entendre avec les autres. Il y a un problème, nous on a eu plusieurs cas, dans les cas familiaux, dans les cas de divorce, de dire, mais écoutez, on s'est entendu, on a parlé, vous reconnaissez ceci, vous reconnaissez cela, entre vous, etc. Et maintenant, on vous demande, on va prier, est-ce que vous voulez véritablement qu'il y ait quelque chose qui change? Ben, ils disent non. Ben, certains, il y en a toujours un qui dit non. Hein. Maintenant, après, s'ils disent oui, c'est que c'est intéressant. Alors, il faut passer la main à Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut passer la main à Dieu, parce que celle-ci, on l'appelle, cette main que l'on passe à Dieu, on l'appelle la prière, l'intercession. On est entre les deux et on plaide. Seigneur, fais grâce. Ah oui, tu fais grâce. Moi, je ne peux plus rien. J'ai dit ce qu'il fallait dire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, Seigneur, voilà, tu... Selon la promesse de Matthieu, je voudrais simplement 6-6, lorsque vous priez, justement pour les cas dont on parle, lorsque vous priez pour un conflit, une situation, dans ce cas-là, hein, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah, un hypocrite, c'est deux visages, deux langages, qui fait ça pour être vu des autres, mais qui n'en pense pas moins, comprenez ? Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Alors, quand vous avez un problème, vous mettez sur le coin de la rue, là, dans le centre-ville, et puis vous priez bien fort. Hein, voilà. Mais quand tu pries, c'est pas si tu pries, quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Parce que c'est la discrétion, hein, c'est pas la peine d'aller crier sur les toits. Hein. Ferme ta porte et ouvre ta bouche. Non, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Tu n'es pas tout seul. Vous êtes deux à ce moment-là et vous plaidez pour encore deux autres. Ou alors peut-être plus pour des groupes. Hein, c'est... Et ton Père qui voit dans le secret, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Et ça c'est sûr, il va te le rendre.
Il sait déjà
comment faire. Parce que moi, je n'ai pas la science infuse, mais lui, il sait déjà comment il faut faire. Et puis, très vite, il faut apprendre à distinguer, à différencier entre une aide occasionnelle, ponctuelle, qui se présente, en réponse à un besoin réel que vous-même vous constatez, et la différence de distinguo, et l'aventure hasardeuse de porter les fardeaux ou les péchés d'autrui, qui n'a aucune intention de s'en sortir et qui appelle à l'aide en utilisant la pression du reproche et de la culpabilité. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu n'as pas fait ça comme il fallait, etc. Et ça, nous avons l'autre version, même chez les chrétiens. Hein. Tu devrais être ceci. Tu devrais faire ça. Ouais, c'est que des accusations. Alors là, il ne faut pas tomber dans le panneau, hein, parce que quand vous avez discerné qu'il y a quelque chose de malsain, que là, nous avons vu Jésus dira hypocrite, eh bien, à ce moment-là, ne vous en mêlez pas, parce que vous allez devenir complice. Moi, on me l'a dit quelquefois, hein, on me l'a balancé dans la figure, hein. Alain, t'es complice, mais je suis complice de personne, moi. Et puis complice, ça veut dire complot aussi. Et moi, je complote contre personne. Moi, mon souci tous les jours, c'est véritablement de rechercher la pensée et la volonté du Seigneur, c'est tout. Ça m'arrive de me tromper. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met, c'est le Saint-Esprit qui nous parle et il nous amène à dire, écoute-moi, j'ai peut-être été un peu trop fort, j'ai peut-être été un peu vif. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Je peux vous dire que j'étais vif. Hein? Et je lui dis, excuse-moi, j'étais vif, j'ai parlé un peu trop ou des choses comme ça. Hein? Mais il n'y avait pas d'intention de faire du mal. Ce qui est terrible, c'est quand il y a l'intention de faire du mal et de faire souffrir. Nous, on est en train de traiter une affaire en ce moment qui n'est pas n'importe quoi. Hein, dans une situation familiale où là, ce n'est que de la part de l'un, de l'autre, de la part de l'un surtout, que de mettre par terre par la culpabilité. De dire, ben voilà, c'est ceci, c'est cela, c'est bien fait. Si tu fais ceci, Dieu va te maudire. Non, mais attendez, où on est là? Dieu est venu non pas pour nous maudire, même les chrétiens, il est venu pour nous bénir. Maintenant, on ne peut pas rester dans le mal. Allez, j'avais encore des choses, mais je ne vais pas aller plus loin. On reviendra, si Dieu le permet. Dans les désaccords, il nous faut que nous soyons diplomates. Et là, vous serez ambassadeur. C'est un titre, hein, c'est bien. Hein. Et vous savez qu'un ambassadeur, c'est celui qui est délégué par un gouvernement pour représenter le pays qui est son pays, finalement, d'origine. Un ambassadeur de France à, je sais pas moi, à Moscou, ça vaut la peine en ce moment. Eh bien, vous savez, et c'est ça, il va parler en bien de son pays. Et on ne peut pas parler en mal de Dieu, on ne peut pas parler en mal de même de notre Église. Oui, l'Église a escalé, c'est vrai, il y a eu des bêtises, il y a eu des erreurs, il y a eu toutes sortes de choses. Mais on en parle en bien. C'est tout, hein. Ils sont formés pour ça. Mais il faut rester ferme dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas la nôtre, c'est la vérité en Jésus-Christ. Il nous faut du tact et de la douceur. Se mettre en colère. Je finis là-dessus. Se mettre en colère est un signe visible de peur de perdre sa place. Reste à ta place. Tu veux, t'as peur de perdre ta place? Eh bien maintenant, change, tu vas voir. Alors là, tu vas la perdre vraiment. Et reste à ta place. Et c'est un signe aussi de manque d'autorité et d'aveu de faiblesse, voire d'amertume. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire à certaines personnes qui étaient tellement remontées, de lui dire, écoute, tu es rempli d'aigreur, tu es rempli d'amertume,
amen,
tu es rempli de mauvaises choses dans ton cœur, eh bien moi je vais te dire une chose, parce qu'on l'a vu ça, on l'a vu, ça s'est vérifié, eh bien c'est ton amertume et ton aigreur qui va t'emporter. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas boire aux deux sources, soit la source amère ou la source douce. C'est pas possible. Et ça prend du temps, quelquefois. C'est dommage. Recherche du calme et de la maîtrise de soi dans l'équilibre du respect de l'autre. Eh oui. Alors, donne le pouvoir. Cela te donne le pouvoir et le vouloir de vivre en paix. Est-ce que ce n'est pas le plus grand de tous les trésors? Ah oui. Trésor. Vous savez, si nous voulons passer une vie heureuse, sommes toutes heureuses, et que de pouvoir dire, eh bien voilà, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé, ça c'est un vieux cantique, hein, naturellement, et de pouvoir le vivre, et pas seulement le dire, eh bien c'est véritablement ce qu'il y a de mieux. Alors, simplement, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, je me suis trompé de verset, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes, et s'il est possible, au sens que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu nous donne sa grâce.